Dans le cadre d'un atelier radio avec le lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois, Frédéric Jourdain et Frédéric Gis, animateurs de RVM, ont encadré les élèves de la classe de seconde 8 avec leurs professeurs messieurs Paul Sely et Tavernier pour réaliser des feuilletons sonores inspirés d'une bande dessinée Adèle Blanc-Sec de Tardy. Nous vous proposons de les écouter.
Synergie ptérodactylienne. Ah ! Épisode 5. Votre feuilleton hebdomadaire tant attendu sur RVM 93.7. Avec
Kylian,
Marion,
Chloé,
Carla,
Juliette,
Flavien,
Maëva,
Rachel
et Thomas.
C'était en novembre, une nuit de novembre, noire et sombre, où tout ce qui était blanc paraissait gris. Le ciel, lui, était d'un profond noir qui donnait au lieu un air mystérieux. Dans le jardin des plantes du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, tout paraissait gris la nuit. Les immenses bâtiments devenaient tout à coup effrayants. La statue, au cœur du jardin, qui le jour magnifiait cet endroit, oppressait les passants. Le vent glacial caressait les peaux et laissait derrière lui une trace comme une brûlure rouge. Il soulevait les feuilles oranges, brunes, rouges et jaunes, et les faisait tourbillonner doucement autour des arbres. La pelouse était parcourue de petites gouttes d'eau qui avaient épargné l'écorce des arbres menaçants dont les branches faisaient penser à des griffes acérées, un peu comme celles d'un animal sauvage. Quiconque aurait été présent aurait rebroussé chemin aussitôt. Car la nuit du 4 novembre 1911, à 23h45, une atmosphère de lourde régnait. Les seuls bruits que l'on pouvait entendre étaient ceux des animaux nocturnes car les lieux semblaient coupés de Paris.
À l'intérieur de ce musée se trouvait une grande salle qui se nommait la Grande Galerie de l'Évolution. Il y faisait très sombre et des squelettes de différentes tailles y étaient disposés. On pouvait y deviner un mammouth, un diplodocus, un tyrannosaure, un globe tondo et un tigre à dents de sabre. Ces dinosaures devaient avoir des millions d'années. Certains étaient même très impressionnants. On pouvait en apercevoir un peu partout. Ces squelettes remplissaient la salle et étaient posés sur des socles en bois. Sur le côté de cette salle, caché par les squelettes, on découvrait des placards avec des vitres transparentes dans lesquelles étaient disposés de nombreux bibelots comme des fossiles, des moulages, des os et d'autres choses. Au-dessus de ces vitrines, on devinait la présence de morceaux de squelettes qui étaient posés et encore au-dessus, on observait les balcons de l'étage. Pour que la lumière puisse rentrer et éclairer cette immense salle la journée, au plafond, on trouvait une verrière. Au travers de cette verrière, on sentait le froid qui rentrait. Celui-ci était intense.
Dans le musée, deux reliques attiraient le plus d'attention, le gigantesque Diplodocus et un œuf de ptérodactyle datant du Jurassique. Il était exposé dans une vitrine sur un socle adapté à sa taille. Il était 20 fois plus grand qu'un œuf de poule. Les deux objets étaient placés l'un à côté de l'autre de sorte que la grande bête eut l'air de protéger la coquille. Sa couleur était brunâtre, parsemée de petites taches noires et roses. Cette caractéristique et sa taille rendaient l'œuf unique et admirable. Cette nuit-là, les rayons de la lune semblaient l'éclairer. Cela rajoutait un aspect étincelant et plus magnifique à l'œuf paraissant si extraordinaire. Soudainement, un bruit vint briser le silence qui régnait à travers la salle. À ce moment-là, cela parut étrange et effrayant car personne ne se situait dans l'enceinte du musée, à part les gardes de nuit qui entrèrent rarement dans les pièces. Le bruit résonna de plus belle, mais il ressemblait à un craquement. L'impensable se produisit.
On entendit les craquements de l'œuf se briser. Au premier abord, on vit un œil, puis une tête, et par la suite, l'œuf se décomposa. Une créature étrange qui ressemblait à un ptérodactyle sortit de l'œuf rose aux petites taches noires. Le ptérodactyle cherchait à briser la vitrine dans laquelle il se trouvait. Il tapait avec son grand bec sur la vitre. D'un seul coup, la vitre se brisa. Des millions de bouts de verre volèrent en éclats. Le ptérodactyle réussit à s'enfuir. Il prit son vol dans la pièce, brisa le plafond vitré, puis s'envola dans Paris.
Au même instant, à Lyon, dans un cabinet de travail, un homme au crâne dégarni explosait d'un rire fort et puissant. L'homme avait des grandes oreilles et semblait très maigre. Cet homme porta un costume trois pièces, une chemise blanche, une cravate et une montre à gousset. D'ailleurs, il ressemblait plus à un primate qu'à un homme. Son cabinet de travail était en désordre. Des livres occupaient les trois quarts de la pièce. Les livres, qui semblaient assez anciens, étaient ouverts, empilés ou dans une bibliothèque. Un encrier et une chaise trônaient devant un livre ouvert et aux pages blanches. Cet homme étonnant a un rapport direct avec l'éclosion de l'œuf du ptérodactyle.
À 1h03, au poste de police du 12e arrondissement de Paris, tout était calme. Il faisait chaud et se diffusait dans l'air les différents parfums des personnes étant présentes dans la pièce. L'odeur du café et de la cigarette y était omniprésente également. Derrière le comptoir se trouvaient deux hommes. Le premier tapait à la machine à écrire et le second le surveillait. Sur le comptoir étaient disposées lampes, tampons, encriers et livres. Un homme et une femme attendaient, las.
Hey Jean-Mi, je te fais un café ?
Oui.
Bon bah allez. Sans sucre ou pas ?
Bah ouais.
Ok.
Devant le mur, près d'un porte-manteau et d'un tableau d'affichage, deux policiers discutaient. Au centre de la pièce se trouvait un poêle où trônait une bouilloire. En bref, rien d'anormal ni de trop agité pour une heure aussi tardive. Jusqu'à ce que deux officiers arrivent avec un homme en loque qui faisait beaucoup de bruit.
Le gros oiseau rouge.
Ses pas lourds et hachés contrastaient avec ceux de deux hommes en uniforme.
Brigadier, on l'a trouvé dans la rue qui gueulait comme un âne. Je crois qu'il a un sacré coup dans le nez.
J'ai pas bu.
Avance.
J'ai pas bu. J'ai été attaqué par une sorte de gros oiseau rouge avec plein de dents. Je vous le dis, chef, j'ai pas picolé.
Mais oui, t'es agent. Allez, foutez-moi ça au bloc.
C'est une bête affreuse. Je vous raconte pas de bobards, chef. Pour une fois que vous feriez quelque chose d'utile, en courant après ce bestiau. Si c'est pas à vous dégoûter de payer de ses impôts de voir ça. Allez, conne, je vous jure.
Le soir suivant, à 19h30, Georges Plot s'apprête à fermer sa pharmacie. En suspendant l'action quelques instants, on peut remarquer des détails intéressants, comme les différentes fioles qui trônent derrière la vitrine. Sur le comptoir, il y a une caisse enregistreuse et une petite pancarte. Dehors, sur l'enseigne, il y a marqué « Pharmacie Pasteur 53 ». Sur la vitrine, il y a une inscription « Ordonnance soignée, accessoire ». Mais aussi, il y a le caducée des pharmacies, une coupe entourée d'un serpent.
Le pharmacien, ayant fini sa journée, sortit de sa boutique et quand il voulut fermer la porte à clé, il se rendit compte qu'il avait oublié ses clés dans une boîte sous le comptoir. Il rentra donc dans sa boutique, prit ses clés et quand il ferma la porte, une envie pressante d'aller aux toilettes le parcourut. Il rouvrit donc la porte, courut aux toilettes et se soulagea. En sortant de la boutique, il trébucha sur ses cartons, en bazar. Il se releva, exaspéré, et sortit. Il referma la porte quand il se rendit compte qu'il avait oublié le bâton servant à fermer le rideau de fer. Il rouvrit donc la porte de la pharmacie, prit le bâton, sortit et ferma le rideau de fer. Malheureusement, il avait oublié de fermer la porte à clé. Il commença à ouvrir la bouche pour hurler de colère quand un cri perçant s'interposa au même moment. C'était celui de la bête piquant du nez sur le pharmacien. Pris de panique, il hurla comme une fille. Ce qui fit perdre ses moyens au ptérodactyle qui repartit dans le sens opposé.
Au même instant, le savant semble avoir perdu son sourire. Son visage se tord même d'inquiétude. Ses mains couvrent sa bouche et ses yeux sont grands ouverts. La supposition de la synergie entre le ptérodactyle et lui est confirmée lorsqu'il crie « Non !» seul, juste après l'agression.
«
C'est la fin de votre feuilleton.
Synergie ptérodactylienne.
Bruitage et texte fait par
la seconde vie du lycée Jean Monnet.
Accompagné de Monsieur Paul Soli, Monsieur Tavernier et
RVM.
Le prochain épisode la semaine prochaine.
Qui n'arrivera jamais.
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Pauline, je suis en classe de seconde 8 au lycée Jean Monnet. Je vais vous présenter le groupe avec qui je travaille sur cette histoire. Le Jurassique s'invite au XXe siècle. Notre groupe s'appelle Les Indécis. Cette histoire sera racontée par Christelle, Léana, Nicolas, Serena, Auraline, Thomas, Clément, Mathias et moi-même. Dans le cadre d'un projet scolaire, nous travaillons avec la radio RVM, Radio Valois-Mulsien.
On était en 1911 au Jardin des Plantes à Paris. Il était 23h45. Les réverbères cassaient la pénombre qui planait sur Paris. Grâce à eux, on arrivait à distinguer les différentes formes des monuments qui constituaient le musée. Le vent glacial emportait au loin les feuilles mortes. On pouvait sentir les effluves de la terre gorgée d'eau, ainsi que la remontée en surface de l'eau des égouts. On pouvait entendre quelques voitures passer non loin d'ici. On entendait également les petits bruits des animaux nocturnes, comme les ululements des hiboux et des chouettes. Tout paraissait normal.
À l'intérieur du musée, dans la grande galerie de l'évolution, régnait un silence qui donnait à la pièce un aspect terrifiant. L'immense salle était sombre, et seules deux sources de lumière éclairaient cet endroit. La première provenait de la lumière de la lune, qui se reflétait dans la verrière. On pouvait remarquer que la seconde provenait des petites lampes vertes accrochées à chaque panneau indiquant les sorties de secours. Malgré l'obscurité bien présente, on pouvait tout de même découvrir ce que la pièce contenait. À droite se trouvaient les animaux empaillés, ainsi que quelques fossiles marins, tandis qu'à gauche, on pouvait observer les squelettes. Au centre se trouvaient les plus impressionnants de tous les squelettes, et c'était celui d'un diplodocus. Il était sur ses quatre pattes, et il avait un cou immense. On pouvait voir toutes ses dents. C'était impressionnant. Au fond, dans l'armoire en verre, il y avait les plus petits fossiles, ceux qui étaient trop fragiles pour être exposés avec le reste. À côté de cette armoire, un peu plus derrière, se trouvait un œuf de ptérodactyle.
Tout à coup, il y eut du bruit. Ce bruit venait de l'œuf du ptérodactyle. Il allait éclore. L'œuf bougea de gauche à droite, puis il commença à se craqueler. Et enfin, on vit d'abord une tête, avec des dents pointues, qui faisait peur. Puis, c'était ses bras ailés. En s'étirant, le ptérodactyle cassa les vitres. Quand il sortit de la vitrine, il vit les squelettes de dinosaures. Il eut peur et il se mit à voler. Arrivé à la verrière, il la brisa. Et s'envola dans le ciel de Paris.
Mais ce n'était pas le seul événement étrange de la soirée. En effet, à Lyon, au même moment, un homme poussait des cris effrayants, tout comme le ptérodactyle à Paris. Cet homme était chauve, avec quelques cheveux sur les côtés de son crâne. Il avait les oreilles décollées. Sa bouche était terrifiante. Ses dents blanches ressortaient. Il n'avait pas de lèvres. Il ressemblait à la tête d'un primate. L'homme portait un costume trois pièces noir. En dessous de sa veste, il portait une cravate. Une montre à gousset dont la chaîne pendait était rangée dans sa poche. Autour de lui, de nombreux livres étaient ouverts, sur son bureau et dans toute la pièce. Il semblait chercher quelque chose. La pièce comprenait de nombreuses armoires remplies de livres et son bureau au centre, éclairé par une lampe à incandescence. Au fond, sur une table, se trouvait une étrange statuette. Tout à coup, l'homme, qui continuait à pousser des cris tout aussi angoissants les uns que les autres, leva les bras, de la façon dont le ptérodactyle déployait ses ailes à Paris. Ce surprenant personnage avait en effet un lien avec l'éclosion de l'œuf du ptérodactyle.
De retour à Paris, il était à présent 1h03 et le poste de police du 12e arrondissement était toujours habité. En effet, dans celui-ci, on pouvait observer 5 agents et 2 autres personnes qui étaient assises sur le banc du fond. Ces personnes avaient l'air d'attendre leur tour pour pouvoir déposer une plainte. Parmi le personnel que comptait le commissariat, à cette heure-ci, seulement 3 agents étaient derrière le comptoir. Sur ce dernier, on pouvait voir une lampe ainsi que des livres, un encrier et un tampon buvard. À l'extrémité du pupitre, on observait une pancarte tournée vers le banc du public. On pouvait régulièrement entendre quelques bruits particuliers, comme le tic-tac de l'horloge ou comme le bruit des touches sur la machine à écrire, ou encore le petit sifflement du poil. On pouvait sentir un fort arôme de café dans toute la salle, mais si l'on avait bon odorat, on pouvait aussi sentir l'odeur de l'encre provenant de l'encrier du comptoir, ainsi qu'une légère senteur de cigarette. Cependant, un événement vint chambouler toute cette tranquillité. En effet, un homme d'une quarantaine d'années accompagné de 2 policiers entrèrent dans le commissariat. L'homme était un clochard. L'un des 2 policiers qui le tenait par le bras s'exclama.
« Brigadier, on l'a trouvé dans la rue qui gueulait comme un âne. Je crois qu'il en a un sérieux coup dans le nez. »«
J'ai pas bu. »«
Avance !»«
J'ai pas bu, chef. Je vous le jure. J'ai été attaqué par une sorte de gros oiseau rouge, avec un bec plein de dents. Je vous le dis, chef, j'ai pas picolé. »«
Mais oui. T'es à jeun ? Allez, foutez-moi ça au bloc. »«
C'est une bête affreuse. Je vous raconte pas des bobards, chef. Pour une fois que vous ferez quelque chose d'utile en courant après ce bestiau, si c'est pas à vous dégoûter de payer ses impôts de voir ça... » Ah, les cognes, je te jure.
Le soir suivant, il était 19h30, Georges Plot, pharmacien de son métier, s'apprêtait à fermer son officine. Il se saisit de la tige de métal qui lui servait à tirer le rideau de fer, sortit, accrocha le bas du rideau et il se mettait à tirer quand tout à coup il entendit un bruit étrange.
« Quoi ?
Quoi ?
Il se retourna. Il était face à face avec un animal horrible, une sorte de volatile rouge, avec un bec pointu, des yeux brillants. Il se mit à hurler.
Ah !
Au même instant, à Lyon, le savant fou criait également.
Non !
Nouvelles diverses. Un étrange incident. Monsieur Plot, pharmacien, rue de Vaugirard, prétend avoir été agressé hier par un étrange volatile. L'animal, aussi gros qu'un chien selon les dires du pharmacien, l'aurait attaqué alors qu'il baissait le rideau de son officine. Étrange incident que l'on aurait tenté de mettre en compte d'un abus de boissons alcoolisées, si Monsieur Plot n'avait au visage de profondes traces de griffures.
Nous avons beaucoup travaillé sur cette histoire et nous espérons que cela vous aura plu. Le projet a été réalisé grâce à notre professeur de français, Monsieur Paul Sely, et à la radio RVM, Radio Valois-Mulsien, que nous remercions. Cette histoire a été tirée de la bande dessinée de Tardy, Adèle et la Bête, dans la série d'Adèle Blanc-Sec. Au revoir !
Au revoir, au revoir.